Récit de vie de saint avec Patrick Pailleret.
Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons pour achever ces chroniques sur Don Bosco avant de découvrir un autre saint dès la semaine prochaine. Je vous avais promis pour cette semaine quelques mots sur le fameux chien Il Grigio. C'est très étonnant, c'est très très étonnant, mais enfin bon, des saints à qui il est arrivé des choses étonnantes, je crois que ce n'est même plus étonnant finalement. Voilà, c'est vrai que bon, Don Bosco s'était retrouvé régulièrement en lutte avec les uns et avec les autres, hein, du point de vue politique. Il ne prenait parti ni pour les républicains, ni pour les royalistes. Hein. C'était, comme je vous le disais, à l'époque où il y avait ces combats pour la réunification de l'Italie. Et Don Bosco, qui était très attaché au pape, se trouvait en lutte avec ceux qui voulaient la disparition des États pontificaux, parce que ces États-là empêchaient la réunification de l'Italie. Donc voilà des adversaires, sinon même parfois des ennemis. Il était aussi en lutte avec son archevêque, qui lui reprochait, si vous voulez, ce zèle intempestif qu'il avait à s'occuper de ces jeunes qui étaient perdus pour la société, qui étaient venus s'amasser, si on peut dire, en ville, à la recherche du travail qui n'existait pas, hein, puisque c'était le début de la révolution industrielle en Italie, et que donc il y avait un exode rural qui venait faire grossir les villes et les alimenter en bouche à nourrir, en bras inutilisés, et en foule de chômeurs et de jeunes délaissés, désœuvrés, laissés à l'abandon, et que Don Bosco s'occupait de réunir, de leur faire apprendre des métiers, de leur faire faire des études, de leur donner une éducation. Donc ça ne plaisait pas à une bonne partie aussi de la bonne société, qui certes avait ses œuvres de charité et qui choisissait ses pauvres et qui sélectionnait les critères de la charité. Voilà. Don Bosco donc était en lutte, enfin lui-même ne luttait pas, mais on luttait contre lui aussi bien des gens, on dirait, de droite que de gauche, aussi bien dans le clergé que chez les anticléricaux. Mais voilà, tous ces gens-là, d'une manière générale, employaient contre Don Bosco des moyens certes désagréables. Certaines classes possédantes essayaient de l'acheter, hein, ce qu'il n'arrivait pas à faire. Mais enfin, toutes ces choses-là, aussi désagréables qu'elles soient, n'étaient pas physiquement dangereuses, même si, effectivement, ça pouvait finir par fatiguer et parfois peut-être entamer sérieusement son énergie qu'il ne perdra jamais, et il saura toujours surmonter ses difficultés. C'est un exemple pour nous tous. Mais il y a un ennemi qui était physiquement dangereux. Il y a eu deux ennemis physiquement dangereux. Il y a eu d'une part certains anticléricaux et d'autre part il y a eu les Vaudois. Les Vaudois, c'était une secte religieuse qui avait au début une sincère volonté de réforme. Hein. Le faste de l'Église choquait, et les Vaudois choisissaient une dimension beaucoup plus pauvre. Hein. Ils recrutaient parmi les gens qui étaient aussi, a priori, ceux dont pouvait s'occuper Don Bosco. Donc il y a eu, Il y a eu comme cela différents ennemis qui ont essayé de s'attaquer à lui physiquement, hein, qui était un danger physique. Hein. Il y a eu une fois où il a été convoqué, invité, on va dire, pour donner les derniers sacrements à un mourant. Et en fait, c'était une tentative d'empoisonnement. Hein, il y a eu des agressions physiques, hein, 17 attentats contre Don Bosco tout de même, hein, 17 attentats. Donc sa vie était en danger quand même, hein, était réellement en danger. Et voilà, et donc, ça faisait quelques années qu'il avait été suivi, menacé, agressé, voilà, et voilà, alors il s'en sortait toujours, hein, quitte même à se battre physiquement. Hein, Don Bosco n'avait pas peur de répondre par des coups de poing, hein, quand il en recevait. Et puis un jour, en 1846, une pneumonie qui l'atteint, c'était extrêmement grave, hein, il a failli en mourir, mais bon, rassurez-vous, il n'en est pas mort. Mais il est resté dans un état de fatigue important, il s'essoufflait, il n'arrivait plus à courir, hein, forcément, parce qu'il s'essoufflait, bon, il ne pouvait plus se défendre seul, et donc, quand il devait partir le soir, un peu tard, dans des lieux, dans les quartiers un petit peu dangereux, il se faisait escorter par quelques garçons un peu grands, un peu costauds de son patronage, hein, qui savaient se battre, et bien souvent, ça l'a aidé, ne serait-ce qu'en étant un petit peu dissuasif. Voilà. Mais voilà qu'un soir de novembre 1854, il est retenu en ville un peu plus tard que prévu, il est tout seul là, la nuit est tombée, il veut rejoindre le foyer de la Casa Pinardi, il pleut, le brouillard, comme ça, qui était épais, on n'y voit pas à 3 mètres devant soi, les rues sont désertes, hein, le moindre coin d'ombre est menaçant, et puis on voit comme cela quelques silhouettes indistinctes là qui rôdent, et voilà, et Don Bosco qui est là et qui est fatigué, qui commence à avoir peur, il se traîne, il est mouillé, transi, effrayé, et là il va vers sa maison, et voilà qu'un énorme chien gris, un molosse énorme là qui apparaît et qui vient comme cela se coucher à ses pieds. Alors il est impressionnant, cet énorme chien qui apparaît, on ne sait pas d'où il sort, mais il vient, il se couche à ses pieds, et puis il lève vers Don Bosco des yeux débordants de tendresse, il lui lèche les doigts et il leur accompagne jusqu'au seuil de la Casa Pinardi. Dans les jours et les semaines qui suivent, l'animal reparaît, et puis avec une ponctualité déconcertante, chaque fois que Don Bosco est retenu en ville, eh bien voilà ce chien qui apparaît, on ne sait pas d'où il vient, mais voilà, il est toujours là pour protéger Don Bosco, et alors on lui trouve un nom à ce chien, comme il est gris, on l'appelle Grigio. Et voilà, alors on ne sait pas à qui appartient ce chien, on se renseigne qui est son maître, d'où il vient, où il habite, mais bon... Personne ne le connaît dans le quartier, et puis voilà. Et voilà donc ce chien-là qui est toujours présent, qui se met en travers de la porte quand Don Bosco doit sortir, s'il y a un danger, pour lui dire de ne pas sortir, il se met en travers de la porte. Et voilà, pour faire comprendre à Don Bosco qu'il ne faut pas sortir, ou alors il faut se faire protéger. Hein. Et puis un soir, Don Bosco est sorti, il n'y a personne dans la rue, sauf deux hommes qui sont là devant, qui regardent un petit peu, ils l'épient, il s'arrête quand il lui-même s'arrête, alors Don Bosco il voit bien que c'est un guet-apens, il repart, on marche derrière lui, on s'arrête, il se retourne, les gens qui font semblant de regarder ailleurs... Bon, Don Bosco voit bien que c'est un guet-apens, et alors il essaie de repartir vers le centre-ville aussi vite qu'il peut, mais bon, comme je vous le disais, il ne peut plus courir, il a eu sa pneumonie qui le laisse fatigué et soufflé. Il se dépêche comme il peut vers une maison éclairée, un café ouvert, quelque chose, mais le souffle lui manque, et il entend derrière lui se rapprocher de ces deux gars-là qui l'attendent, et il le rattrape, il le ceinture, il lui jette un sac d'entoile sur la tête, Don Bosco se débat tant qu'il peut, mais il n'est pas de taille, il va mourir assassiné, il en est sûr, c'est trop bête. Mais voilà que du fond de la rue, il entend la cavalcade d'un gros animal qui aboie comme un fou, qui grogne et qui s'abat de ses 90 kilos de muscles sur les deux assaillants, le mordant, hurlant. Terrorisés, les bandits prennent la fuite et Giovanni, débarrassé de son sac, voit Grigio, redevenu doux comme un agneau, se précipiter sur lui pour lui lécher le visage. Des mois durant, Grigio restera auprès de Don Bosco comme un ange gardien velu et patibulaire. Et les Vaudois renonceront définitivement à s'en prendre au prêtre. Alors tout ce temps, Grigio apparaît et disparaît sans qu'on puisse dire d'où il vient, où il va. On ne sait pas, voilà, c'est ce monstre terrifiant qui consent à entrer à la Casa Pinaldi et qui se transforme, quand il rentre là, en une grosse boule de peluche qui se laisse tirer la queue, les oreilles par les enfants, il ne grogne même pas. Et voilà, et alors ce qui est encore plus surprenant, une chose surprise de plus, c'est que ce chien des rues là qui devait crever de faim, régulièrement tenté par diverses gâteries qu'on lui offre comme ça, mais il touche jamais à ces gâteries, ni sucre, ni biscuits, ni viande, rien. Faudra se rendre à l'évidence. Et le Grigio, il ne mange pas. Et voilà qu'un an peut-être après son extraordinaire entrée dans la vie de Giovanni, Grigio disparaît. Il disparaît comme ça, comme il était venu. Alors Don Bosco, il se résigne, il a dû arriver. Un malheur à la bête, et voilà. Bon, c'est vrai qu'il n'a plus besoin de lui, et en fait, l'histoire n'est pas finie. En 1864, une dizaine d'années après la dernière visite du chien, Don Bosco, vieilli, fatigué, la vue basse, se perd en se grandant un soir chez des amis dans un quartier qu'il connaît mal. Il erre depuis déjà un long moment, quand il a la surprise de sentir contre sa pomme l'apparition d'une truffe humide et un grand coup de langue. Ah ! Jaillit de l'obscurité, Grigio est revenu. Et comme il savait où son maître se rendait, il l'amène droit à la porte de ses amis, puis pet, il disparaît à nouveau. Alors voilà. Alors Don Bosco, il n'est pas au bout de ses surprises. Et alors, il est perplexe. C'est long, 10 ans dans la vie d'un chien, surtout errant. Et alors, il n'a pas... Il est toujours en pleine forme, ce chien. En 1883, 19 années après ses retrouvailles, le vieux Don Bosco se perd une nouvelle fois dans le quartier des Bordighere. Il n'a même pas le temps de s'en alarmer que Grigio, à la différence de son maître, n'a pas blanchi d'un poil. Il vient le prendre par le pan de sa soutane et le conduit avec le même fer infaillible jusqu'à son lieu de rendez-vous. Alors si Giovanni compte bien, cela fait alors 32 ans que ce fidèle compagnon surgit à bon escient pour le tirer des ennuis. 32 ans ! Toute explication rationnelle devient délicate. Dans ses derniers jours, Saint Jean Bosco dira à ses proches, qui tous ont reconnu Grigio, qui l'ont caressé, admiré, et qui lui demandent perplexe que pouvait bien être en vérité cet animal, Don Bosco dire que c'était un ange ferait sûrement rire, mais on ne peut quand même pas dire que c'était un chien comme les autres.